Bonsoir et bon début de semaine à tous. Dans sa décision rendue publique vendredi 5 janvier 2024, la Commission électorale nationale indépendante s'est mise à annuler la totalité des suffrages obtenus par certains candidats pour, entre autres, fraude, corruption et détention des dispositifs électroniques des votes lors des élections du 20 décembre 2023. La CENI a aussi annulé les scrutins dans les circonscriptions de Yakoma et Massimanimba pour raison notamment des violences et vandalismes à l'endroit des électeurs et membres de la CENI. Si certains Congolais saluent cette décision de la CENI, d'autres estiment en revanche que c'est la matérialisation de l'impréparation de ces élections qui, selon eux, ont été organisées dans la précipitation. Entre-temps, la publication des résultats provisoires des élections des députés nationaux et provinciaux se fait toujours attendre. Quelle analyse faire de la décision prise par la CENI? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce lundi 8 janvier 2024. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Joseph Senda, directeur des opérations à la Commission électorale nationale indépendante. CENI en sigle, Joseph Senda, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir.
Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi. Frédéric Amani, bonsoir.
Bonsoir madame et bonsoir à tous les co-débatteurs et auditeurs de Radio Okapi.
Aussi avec nous dans ce débat, le professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et politologue. Professeur, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir aux auditeurs et auditrices de Radio Okapi, ainsi que meilleurs voeux à tous les auditeurs.
À Kinshasa, vous nous suivez sur la 103.5 et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiokapi.net, sur Canal Plus, Channel 572, sur DSTV, Canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en live sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, la Commission électorale nationale indépendante a annulé les élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions électorales de Matadi dans la province du Kwilu et à Yakoma au nord Ubangi. Elle a également annulé la totalité des suffrages obtenus par 82 candidats aux élections législatives nationales, provinciales et communales. Cette décision a été rendue publique dans la soirée de vendredi dernier par Madame la rapporteure de la centrale électorale. La CENI justifie sa décision par la perturbation du déroulement des scrutins le 20 décembre, notamment par les actes de violence, de vandalisme et sabotage perpétrés par certains candidats. Grâce à Mzati pour les détails.
Parmi ceux dont les suffrages sont annulés figurent des personnalités politiques dont certains occupent des fonctions de responsabilité dans le pays, accusés entre autres de fraude, corruption, vandalisme des matériels électoraux et détention illégale des dispositifs électroniques de vote devant sigle. C'est le cas des ministres Didier Manzenga, Nana Manuanina et Antoinette Kipoulou. Aussi, des administrateurs des entreprises publiques, notamment Singi Pouloulou et Kinke Mulumba. Dans ce festival des fraudes et corruption, la CENI dénonce aussi l'implication des gouverneurs des provinces. C'est notamment Gentil Ngobila de la ville-province de Kinshasa, Bobo Boloko de l'Équateur et César Limbaya de la Mongala. Des sénateurs, députés nationaux et provinciaux, ministres honoraires, ministres provinciaux et même des professeurs d'université sont aussi concernés. Dans cette catégorie, nous avons par exemple Évariste Bouchab, Mabaya Gizi, Sambo Kolombe, Charles Mbutamutu, Justin Kalumba et Willy Bakonga, pour ne citer que ceux-là. Selon la CENI, la commission ad hoc continue d'enregistrer les dénonciations en rapport avec les cas de vandalisme, des détentions illégales des devs ainsi que des violences perpétrées sur les électeurs et le personnel de la CENI. À la centrale électorale de préciser, je cite, les sanctions appropriées seront prises à l'endroit de tout candidat et agent de la CENI qui serait impliqué dans les cas précités. Fin des citations.
Merci, grâce à Mzati pour tous ces détails. Joseph Senda, directeur des opérations à la Commission électorale nationale indépendante. On va aller droit au but sur base de quoi les suffrages de ces 82 candidats ont été annulés.
Merci beaucoup, madame. J'en profite pour présenter mes vœux les meilleurs, aussi bien aux compatriotes avec qui nous co-débattons, qu'à l'endroit de ceux qui nous suivent aussi bien à travers le pays qu'à travers le monde. Comme vous venez de le dire, dès que la commission a eu vent, la commission électorale nationale indépendante a eu vent de tout ce qui se passait sur le terrain, de toute la plainte qui lui remontait par toutes les voies, et il a jugé bon de mettre en place une commission pour recueillir ces différentes observations qui ont l'air, pour beaucoup d'ailleurs, de faits à caractère infractionnel. Devant cette situation, la Commission électorale nationale indépendante a sorti une décision pratiquement à deux volets. Un volet portant suspension ou annulation des élections à Massimanimba et à Koma. Un deuxième volet portant invalidation des résultats obtenus par certains des candidats. La liste a été connue, il y en a 82, et pour chacun des invalidés, le motif d'invalidation est sorti. Et lorsque vous lisez la décision, la motivation relève de différentes dispositions ou de certaines dispositions de la loi organique portant composition et fonctionnement de la CENI. C'est sur base de ce cadre-là que la CENI a pu prendre la décision dont nous parlons ce soir. Et dans le même sens, nous voulons dire que la CENI poursuit, comme elle l'a dit, ses enquêtes dans certaines autres circonscriptions, et la CENI est en train de réunir les éléments à charge de son personnel qui se serait compromis. En fait, nous attendons tous, la CENI comme l'opinion nationale, que les juridictions compétentes, en l'occurrence la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État, se penchent sur cette question pour que nous obtenions davantage des éclaircissements à ce sujet. Nous pouvons dire que nous ne pouvons pas connaître tous les méandres, mais une chose est vraie, certains personnels permanents de la CENI se sont compromis dans ce jeu-là. Donc, pour revenir à la préoccupation, la décision a été alimentée ou bien a été motivée par certaines dispositions de la loi organique portant fonctionnement, composition de la Commission électorale nationale indépendante. Voilà. Alors, ce que je peux dire.
Oui, vous, madame, dites que vous ne pouvez pas connaître tous les méandres, mais pourquoi avoir pris cette décision? Est-ce qu'elle n'était pas précipitée? Est-ce que vous avez eu le temps d'écouter ces personnes incriminées, ces candidats qui sont incriminés?
Je voudrais préciser ma pensée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous recevons le matériel de l'extérieur, il faut d'abord que nous plantions les décors en ce qui concerne le plan de déploiement pour que beaucoup comprennent exactement. Lorsque nous recevons le matériel de l'extérieur, dans un premier temps, ce matériel, il est conditionné, il est déjà conditionné en fonction de sa destination. Nous avons quatre portes d'entrée. Le matériel arrive par Goma, par Kisangani, par Lubumbashi, par Kinshasa. Ce sont les quatre principaux hubs. Ensuite, nous passons dans les hubs secondaires. Et l'avant-dernière étape, ce sont les sites de formation. C'est à ce niveau-là que le matériel arrive. Donc, selon le conditionnement, on ne peut pas trouver dans un site de formation qui serait dans le Congo central le matériel de Mobile Mbongo ou je ne sais pas, d'Idui, parce que le conditionnement est fait dès le départ. Alors, au niveau des sites de formation, on a le matériel des centres d'inscription que couvre ce site de formation. On n'a pas tout le matériel à ce niveau-là. Et le matériel est stocké sous l'autorité du chef d'antenne et de son logisticien, ainsi que des éléments de la sécurité qui sont appelés à sécuriser les sites. Lorsque la formation a pris fin, les chefs de centre de vote se déploient vers leur site de vote parce que ils sont appelés à former. Maintenant, nous, quand je disais que nous devons en savoir plus, c'est-à-dire que la CENI a eu des éléments d'information avec une certaine marge de certitude que le matériel se sont retrouvés entre les mains des individus. Maintenant, nous voulons savoir, c'est pour ça que je disais que même les personnes de la CENI, compromis, sera sanctionné. Comment ce matériel sont partis des sites de formation vers les sites de vote? Pour que ce personnel se compromette, il n'y a que deux possibilités. Ou c'est le personnel qui s'est vendu, ce sont des temporaires, ce ne sont pas des permanents. Les chefs de centre de vote, ce sont des temporaires, ce n'est pas les permanents. Mais c'est le permanent chef d'antenne et logisticien qui remettent le matériel au CCV personnel temporaire. Donc à ce niveau déjà, on doit avoir beaucoup plus d'informations.
Alors, donc on retient qu'il y a eu complicité entre ces candidats qui sont incriminés et certains membres de la CENI.
Il y a à la fois les informations dont dispose la CENI. Elle voudra bien être confortée dans sa position au terme de jugement que nous souhaitons de tous nos voeux des juridictions compétentes pour que, finalement, les uns les autres, qu'ils soient mis à nu le rôle joué par chacun d'eux. Est-ce que le personnel permanent de la CENI est innocent? C'est les temporaires qui a fait son jeu entre le site de formation et le site de vote, ou alors il a été contacté et il a joué ce jeu-là. Ou alors le chef de centre de vote qui quittait le site de formation avait été contacté au départ, ou c'est lui-même qui s'est vendu. Mais ce qui est le plus important à ce stade, c'est que les devs se sont retrouvés dans les maisons des individus. Ça, on ne peut pas douter.
A-t-on une idée sur le nombre des devs détournés ou volés?
Bon, la logistique est le matériel est en train d'être remonté, d'être ramassé vers les points de départ. Et au fur et à mesure que ça monte, on comptabilise, au moment opportun, on vous dira ceux qui sont, y en seraient restés, si jamais, en dehors de ce qui avait été détruit, du matériel qui avait été détruit dans certains sites de vote. Mais ce qui manquerait, on le fera quand tout le matériel sera remonté.
Alors, une question qu'un auditeur de Kinshasa nous pose, une auditrice plutôt, elle s'appelle Nathalie depuis Mongafula. Elle demande si les suffrages obtenus par ces candidats, si les suffrages obtenus par certains candidats, entre autres pour fraude, corruption et détention, seront annulés aussi pour la présidentielle. Parce qu'ils ont voté aussi pour la présidentielle du 20 décembre 2023.
Bon, dans tous les cas, il est difficile. Je sais que c'est le souci de beaucoup de gens. Il est difficile de faire un lien direct entre la situation de la députation nationale et la présidentielle. Et je vais m'expliquer parce que je sais que beaucoup de gens disent beaucoup de choses à ce propos. En ce qui concerne le fonctionnement du DEV, on ne peut pas passer d'un écran à un autre si on n'a pas terminé le vote à un niveau donné. Autrement dit, je ne peux pas passer à la députation nationale si je n'ai pas voté la présidentielle. Je ne peux pas passer à la députation provinciale si je n'ai pas terminé mon vote de la députation nationale, quel que soit le choix que je ferai. Possibilité du bulletin blanc. De même que je ne peux pas arriver à l'élection du conseiller communal si je n'ai pas terminé la députation provinciale. Là, c'est lié. Mais les différents choix que les individus font ne sont pas liés. Autrement dit, pour que moi j'obtienne de voix en tant que candidat député national, je n'ai pas forcément besoin que tel ou tel candidat présidentiel soit élu. Je n'ai pas forcément besoin de ça. Et des deux, puisque le vote est secret, il est difficile de savoir comment les gens ont voté, sauf la supputation, sauf la spéculation. Mais en dehors de ça, il est difficile de le savoir. Sauf la spéculation, bien sûr, on peut spéculer que. Mais logiquement, quelqu'un qui vote pour la députation nationale, qui veut être élu, n'est pas lié aux autres candidats.
Mais il vote pour son candidat à la présidentielle, Monsieur Joseph Senda.
Comme tout
ça
le
peut
monde,
avoir un
le
impact
c'est,
sur c'est... même les résultats de la présidentielle que la CENI a publié.
Le vote est secret. Même celui qui s'est dit, je m'excuse beaucoup, petit frère d'un candidat président de la République, on n'est pas sûr qu'il votera pour son frère. On n'est pas sûr. Le vote est secret. Même le petit frère d'un candidat X donné, on n'est pas sûr qu'il votera pour son frère.
Donc, la CENI peut voir que le candidat, par exemple, député, a voté pour lui, mais ne sait pas voir si ce même candidat a voté pour quelle, personne à la présidentielle.
Il faut avoir le bulletin entre ses mains pour le voir. Il faut avoir le bulletin pour savoir qui a voté pour qui. Il faut avoir le bulletin entre ses mains.
Professeur Bob Kemamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et politologue, quelle analyse vous faites de la décision prise par la CENI?
Merci madame. Il y a un petit temps que nous avons eu déjà plusieurs débats à ce sujet. D'abord au niveau du processus électoral, j'avais déjà démontré à plusieurs reprises que tous les processus étaient biaisés. Le processus était irrégulier, puisque plusieurs dispositions de la loi électorale et plus d'autres lois ont été violées allégeamment sans qu'il puisse y avoir des réactions. Je ne veux pas ici mettre la liste de toutes les dispositions que la CENI a violées, que ce soit sur les listes électorales, les bureaux de vote, les dates des élections, les dépouillements, publication des résultats, etc. Tout ça, il y a eu tellement de violations de la loi, des dispositions légales par la CENI, qu'on ne les compte même plus. Et en regardant de manière objective, sans essayer des trucs, c'est que ce processus est complètement irrégulier et qui ne mériterait pas de pouvoir être compté comme véritablement un processus électoral digne de ce nom pour un pays comme la RDC. Et ce clou de l'histoire, c'est que c'est la décision de la CENI qui se décide à un moment donné de pouvoir annuler des votes dans des circonscriptions électorales, de pouvoir invalider des candidats sur base d'une commission d'enquête qui a été mise en place par la CENI et dont on voit les décisions. Madame, vous devez savoir que la CENI n'a pas compétence pour annuler des processus de scrutin. La CENI n'a pas compétence pour invalider des candidats. Ces compétences sont de la compétence de la justice.
Dans la décision de la CENI, excusez-moi professeur, on ne parle pas d'invalidation, oui. On parle d'annulation.
Si, on parle d'annulation pour deux circonscriptions, Massimba Nimba et Yacouba. Et on parle d'invalidation des candidats, des autres candidats, etc., dont on parle, la liste a été publiée par la CENI. C'est pas de la compétence de la CENI. Puisque nous sommes dans une dynamique où la CENI peut se permettre tout ce qu'elle veut, elle viole la Constitution, elle viole la loi électorale, elle viole la loi même sur la CENI qui ne lui donne pas le droit de pouvoir le faire. C'est la justice qui doit annuler. Parce que la CENI, ce qu'elle doit faire, c'est réunir les éléments et les présenter à la justice pour que la justice prenne la décision de pouvoir soit annuler en partie ou en totalité, même pour l'invalidation des candidats. Pour vous montrer même, pour aller même plus loin, madame, pour vous montrer véritablement que nous sommes dans une espèce de dynamique qui n'a pas de nom, on annule le scrutin national, non, le scrutin législatif et provincial dans la circonscription de Massimba Nimba. Ça veut dire que les scores des députés, candidats députés nationaux, candidats députés provinciaux, et ne seront pas prise en considération, et au même moment, on invalide les candidats de Massimba Nimba. Ça veut dire que c'est une décision qui n'a pas de sens. Ça veut dire que lorsque vous annulez, vous n'avez pas besoin d'invalider des candidats pour une élection qui est déjà annulée, madame. Donc c'est complètement surréaliste. Je me demande même comment est-ce que la CENI peut publier ce genre de décisions et assumer et rendre ça public, si ce n'est encore rendre encore plus crédible tous les débats qu'il y a par rapport à la crédibilité de ces élections. Par ailleurs, comment voulez-vous, Monsieur Senda vient même de le démontrer lui-même, d'affirmer lui-même, qu'il a expliqué le processus électoral. On ne peut pas voter la présidentielle sans, on ne peut pas voter les députés nationaux ou provinciaux sans passer par les présidentielles. Donc il y a un lien évident qui a déjà été établi par rapport au système de vote. C'est-à-dire que lorsque l'on regarde les candidats qui sont invalidés, il s'agit essentiellement des candidats de l'Union sacrée. Ce qui veut dire que ceux qui ont pris des machines pour pouvoir voter de manière frauduleuse ont voté aussi pour les présidentielles de manière frauduleuse. C'est évident, ça n'a même pas de discussion, ça ne nous donne pas le droit de dire secret de vote. Secret de vote, comment on sait pour les députés nationaux et députés provinciaux? On ne sait pas pour les présidentielles, alors qu'il y a secret de vote. Et donc, clairement, l'argument ne tient pas. Tout simplement, nous sommes dans un processus qui est un processus, on va dire, bancal, opaque, sans crédibilité. Et à chaque jour, nous avons à chaque jour la démonstration de la CENI elle-même qui accrédite la thèse des irrégularités et d'un processus qui n'a pas été transparent ni démocratique. Et la décision qui a été prise par la CENI est une preuve palpable qui prouve de manière irréfutable que 82 candidats aux élections ont triché dans 16 provinces. Et dans ces 16 provinces-là, et on veut encore rajouter d'autres provinces, ça veut dire grosso modo que si on dit que ça n'a pas d'impact sur les présidentielles, alors nous sommes, je ne sais plus dans quel système on est, en sachant très bien que le monsieur qui vote, il vote président, il vote député national, il vote président, député provincial, et il vote député national. Donc là, les arguments de la CENI ne tiennent pas, et bien sûr, comme nous sommes dans un système où le droit n'est plus le droit. Je viens de vous démontrer que la CENI ne peut pas annuler. Le droit n'est plus le droit. Donc on fait ce qu'on veut et les choses avancent et nous allons arriver avec des résultats qui vont être proclamés et des candidats qui vont être nommés dans les prochains jours dans un système qui n'est pas démocratique ni transparent et qui va avoir une conséquence sur la légitimité des institutions, ce qui est pour moi beaucoup plus grave. La légitimité des institutions va être basée sur des résultats qui ne sont pas des résultats corrects, qui sont des résultats issus d'une fraude qui est acceptée par la CENI elle-même, par sa décision qu'elle a elle-même démontrée. Et on n'en a pas encore terminé, puisque M. Sénat vient de le dire qu'on n'en a pas encore terminé, que nous allons encore avoir d'autres provinces, puisque là, il y a une partie qui vient d'être dévoilée. Nous aurons encore d'autres provinces où on aura encore les mêmes problèmes. Peut-être que ce sera encore beaucoup plus. Et lorsque l'on sera encore beaucoup plus, et donc ça veut dire tout le système est vicié. Et les résultats qui sortent d'un système vicié, ça veut dire que ce sont des résultats qui ne sont pas qui sont viciés. Et les autorités et les institutions qui en découleront seront illégitimes.
Et pour vous, il faudrait donc annuler ces élections.
Si on tient compte de toutes les dispositions qui ont été violées par la CENI, je vous assure que j'ai fait l'exercice, je peux faire l'exercice, on prépare même des publications à ce sujet avec mon équipe à l'université, pour voir toutes les dispositions qui ont été violées, et ces dispositions qui sont des dispositions fondamentales. La liste des électeurs, la liste des bureaux de vote, la date des élections, la prolongation d'un scrutin jusqu'à 7 jours, les dépouillements, les publications des résultats qui ne respectent pas la loi, mais tout ça constituent des éléments qui sont des éléments fondamentaux par rapport à une crédibilisation des élections. Et lorsque vous analysez, et la CENI elle-même le reconnaît, et donc, normalement, s'il y avait une justice correcte, et donc on devait purement et simplement annuler non seulement les élections présidentielles, mais aussi les législatives, et tout annuler. Parce que tout simplement, la CENI elle-même reconnaît qu'elle n'a pas pu garantir, un, le bureau de vote, on ne sait pas, le nombre des machines de vote, on ne sait pas. Même les machines de vote qui ont été, entre guillemets, chez les particuliers. Est-ce que la CENI a porté plainte pour dire qu'il y avait des machines qui ont été volées ou dérobées? Elle n'a pas porté plainte. Elle n'a pas porté plainte. Et lorsque même les observateurs ont fait remonter les éléments, qu'il y a des endroits où, au lieu d'avoir 10 machines, il y a 2 qui fonctionnent, alors que 8 machines ne sont pas au centre de vote, mais 8 machines sont chez les particuliers, la CENI n'a rien communiqué, n'a même pas porter plainte pour dire qu'il y a des machines qui ont disparu.
Mais elle a mis en place une commission d'enquête.
Madame, encore un élément important. Madame, un élément pas important. Monsieur Senda vient de confirmer que les gens de la CENI, les agents de la CENI sont impliqués dans ce système. Et quand les agents de la CENI sont impliqués dans ce système, ça veut dire que c'est la CENI dans sa totalité qui est impliquée dans ce système parce qu'elle n'a pas sanctionné, elle n'a pas dévoilé, elle n'a pas porté plainte, et donc elle a acquiescé le système, et que le système, lorsqu'il s'est, entre guillemets, dérapé, se sent obligé maintenant de réagir face à l'opinion publique qui réagit, qui remonte les éléments, et ces éléments sont probants, et il n'y a pas à discuter sur ça.
Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi, qu'est-ce que vous pensez de la décision prise par la CENI? Certains Congolais saluent cette décision et estiment que c'est pour raison de transparence que la CENI a pris hein, cette décision. D'autres pensent que c'est vraiment la matérialisation de l'impréparation des élections qui ont été organisées dans la précipitation.
Merci beaucoup pour la parole. Merci de m'avoir associé à ces débats, Madame Kelly. Alors, je pense que j'ai eu encore l'honneur d'être invité dans vos précédentes émissions sur le processus, et je pense que ces cas de fraude est la conséquence d'un processus qui au départ était déjà biaisé par manque d'un consensus. Lorsqu'un processus électoral n'a pas de consensus, rassurez-vous que vous allez droit au mur. On peut ne pas les reconnaître à haute voix, on peut ne pas les dire, mais c'est ça la réalité. Et je crois que il y avait ces problèmes. Et un autre élément, c'est que je pense que cette annulation de suffrage au niveau national et provincial doit être globale et non partielle. Moi, je pense que la CENI, nous saluons ce travail, mais nous pensons qu'elle doit aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, ça ne doit pas être une justice de deux poids deux mesures, où il y a, selon les informations ou selon, n'est-ce pas, les enquêtes, que certains aussi d'autres candidats qui seraient plongés ou qui étaient plongés dans cette fraude ne sont pas sanctionnés, et d'autres, et à ce moment-là, ça devient comme un règlement des comptes, malheureusement. Moi, je pense que c'est une bonne chose d'avoir sanctionné ces candidats fraudeurs, mais il faudrait que cette décision aille jusqu'au bout. Et un autre élément, je suis tenté de croire et de dire qu'il y a eu de la précipitation et il n'y avait pas de péché de reporter ces élections, même pour une semaine, pour deux semaines, pourvu que la logistique soit bien assise. On a demandé du soutien à la dernière minute à l'Égypte. Moi, je crois que ça aussi, c'est la conséquence de ce qu'on peut qualifier d'une précipitation où il fallait à tout prix tenir le délai constitutionnel alors que le matériel n'était pas acheminé dans toutes les circonscriptions, et ce qui a conduit, n'est-ce pas, à ces problèmes-là. Et notre élément, madame, pour ajouter, je pense que la CENI a violé la loi. Le professeur est revenu là-dessus, où le scrutin était prévu pour une seule journée, mais elle est allée à 5, 6, 100, n'est-ce pas, un soubassement ou une assise juridique pour dire c'est au motif de telles raisons que nous prolongeons le scrutin. Autant d'éléments d'irrégularité qui, n'est-ce pas, donnent lieu à ce que l'opinion, une certaine opinion, pense qu'il y a lieu d'annuler ces scrutins pour permettre à ce que d'autres scrutins bien organisés soient mis en place pour, n'est-ce pas, la cohésion pour l'unité nationale d'un point de vue.
Est-ce que vous faites partie de ces gens qui demandent l'annulation de ces élections, Frédéric Amani?
On n'annule pas les élections pour faire plaisir à un camp contre l'autre, mais on annule les élections. C'est comme un management. Lorsqu'on pose des actions, après on doit contrôler, on doit vérifier si on a suivi, n'est-ce pas, tout le processus. Lorsque le processus est biaisé, on doit revenir à la case de départ pour bien repartir. Moi, je pense, par rapport aux irrégularités constatées, je crois que, et au nom de l'unité de la cohésion, parce que l'élection aussi, c'est un élément qui cimente cette cohésion, mais lorsque l'élection apparaît comme un élément qui engendre l'illégitimité, la division ou la violence, eh bien, je crois qu'il y a lieu que la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, annule ces élections pour organiser des bonnes élections à l'issue desquelles, je crois que avec le score du président Félix, eh bien, il peut encore l'emporter. Donc, je soutiens l'idée selon laquelle on peut annuler les élections, mais après les enquêtes de la CENI et d'autres organisations qui qui démontre, n'est-ce pas, les taux exagérés d'irrégularité, que ce soit au niveau présidentiel, au niveau national ou au niveau provincial ou au niveau des municipales.
Eze Kaluka Mwindo, un internaute qui nous suit depuis la page Facebook de Radio Kapi, il nous écrit depuis le territoire de Lubero, commune de Kirumba, dans la province du Nord Kivu. Merci à la CENI et beaucoup d'encouragement de ma part, mais nous demandons à la CENI de publier les résultats les plus tôt possible pour ne pas troubler les électeurs. Tout Charles Ottawa, tout électeur, voilà, sa réaction n'est pas complète, mais vous êtes très très nombreux à nous suivre à travers toute la République, à Kinshasa, Kananga, Fungurume, Kolwezi, Lubumbashi, Goma, Bukavu, vous êtes très nombreux. On va ouvrir notre standard pour prendre ces auditeurs qui veulent aussi faire entendre leur voix, donner leur point de vue et poser des questions à nos invités. On va se rendre, on reste à Kinshasa, me signale la réalisation, pour écouter Junior Bompongo.
Junior Bompongo est là depuis la province de Kinshasa. La décision prise par la CENI de sanctionner les présumés auteurs de la fraude électorale rentre dans la droite ligne de garantir un processus électoral transparent et juste, vu que les élections sont au cœur de la démocratie. Mais à l'issue de cette décision, force est de constater que la CENI se recherche une voie de sortie honorifique après un désordre électoral bien planifié, d'autant plus que 82 députés fraudeurs sanctionnés par la CENI sur un nombre important de candidats nous laissent avec l'impression d'une opération de communication de la part de la CENI plutôt qu'une volonté réelle de rendre équitable l'ensemble du processus électoral. Par ailleurs, l'ampleur de la fraude est telle que les ratios de 82 sur 29 ou 1000 est juste irrationnel. C'est pourquoi, à un moment, il faut se décider entre bien faire et faire du cosmétique. Dans tout ça, il faudrait noter que personne n'est dupe. S'il faut encore aller plus loin, posons-nous la question de savoir comment les invalidés se sont retrouvés avec les dispositifs électroniques de vote. Bref, la décision de la CENI n'est qu'une chimère, nier la partie visible de l'iceberg qui cache la vraie fraude électorale.
Je vais ajouter cette autre réaction de Kato Lagno Moïse depuis la ville de Bounia. C'est que la CENI a fait vraiment salutaire, mais il faut que la CENI soit vraiment vigilante car on risque d'assister à des règlements de compte. Joseph Senda, réaction.
Merci beaucoup, madame. Je suis aussi bien les deux co-débatteurs que les différentes questions. Mais permettez-moi d'abord de revenir sur quelques propos que j'ai entendus de la part des co-débatteurs.
Allez-y.
Je regrette beaucoup que le prof se livre à des conclusions assez hâtives. Et en plus de ça, qu'il me fasse dire ce que moi je n'ai pas dit. Moi je n'ai pas dit que tout celui qui a voté pour la députation nationale a forcément voté pour le président de la République. Moi j'ai bien dit que, du point de vue informatique, les écrans ne changent pas quand on n'a pas fait les choix précédents. C'est ce que je dis. Mais lorsqu'on vote pour soi-même, son choix n'est pas lié au choix du président de la République. Moi, je me bats pour moi-même. Je voudrais avoir mes voix. Que le président soit élu ou pas, moi, ça me fait quoi? Moi, je veux avoir mes voix. Donc, prétendre qu'il y a un lien entre le choix de quelqu'un et le choix du président de la République, je crois que c'est un peu biaisé. Et des deux, 82 malfrats, si je peux me permettre. Mais sur combien engagés dans la course? 101 000 candidats, 82 sont à la barre. Ça fait quelle proportion ça, pour que l'on prétende que. Nous avions bien dit ici qu'il n'est pas impossible que le personnel de la CENI soit impliqué. Mais de là à remonter la responsabilité à la CENI, je crois que c'est un peu trop. Je vais prendre un exemple simple. Un entraîneur termine le travail de ses joueurs. Il les libère. Un joueur, en allant vers la maison, se fait corrompre entre le lieu de l'entraînement et la maison. Il fout le match en l'air. Vous allez imputer ça à l'entraîneur ou au joueur qui a fait ces jeux-là? Dans tous les cas, nous avions dit que la CENI va punir son personnel qui se serait compromis. Ça, je l'ai dit tout à l'heure, et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne veut pas en tenir compte. On voudra croire que la CENI devrait tout faire en un jour. Non, laissez la CENI travailler. Personne n'a demandé à la CENI de mettre en place une commission. Elle est en train de travailler, elle a sorti les résultats. Et à ce propos, à ce jour, pour ce qui est de la décision, les juridictions s'en sont saisies. Elles cherchent les éléments supplémentaires auprès de la CENI. Elles se sont saisies. Et ça ne va pas crier sur le toit. Même le Conseil d'État est saisi. Au moment opportun, chef de juridiction va se prononcer par rapport à l'acte de la CENI. Le prof a fait allusion à l'observation électorale. Mais le prof sait que les rapports des observations électorales sont postérieurs. C'est après qu'on vient nous dire. On n'a pas dit, c'est en sénante que non, dans tel endroit, au lieu de 10 machines, il y en avait 2, au lieu de 10, il y en avait 12. Même si on a constaté, les missions d'observation font leur rapport après, mais prétendent que nous avons été informés, nous n'avons pas réagi, je crois que ce n'est pas tout à fait correct. Manque de consensus. Est-ce qu'il y a déjà eu un cycle électoral ici qui a réuni le consensus? Est-ce que nous pouvons justifier que le manque de consensus justifie le comportement de l'acteur politique? Est-ce que nous pouvons dire que c'est le manque du report des élections qui justifie le comportement de l'acteur politique? Il n'y a aucun lien entre le fait de manquer de consensus et le comportement des acteurs politiques. Entre le fait d'avoir pas reporté les élections et le comportement des acteurs politiques, il n'y a aucun rapport entre les deux. Alors aucun du tout. Alors, nous avons heureusement suivi tout à l'heure les débats à la Cour constitutionnelle. Certaines préoccupations auxquelles le prof fait allusion et même enfin le prof Bob et le excusez-moi le deuxième
Monsieur
prof
Frédéric. N'est pas
seul. Ok, Frédéric, s'ils avaient suivi les débats à la Cour constitutionnelle, des excuses ont été apportées par rapport à toutes les préoccupations auxquelles ils font allusion, même cette histoire du report, comme certains prétendent que ça s'est fait sur 7 jours, j'aurais bien voulu qu'ils suivent pour qu'ils reçoivent des explications de la part des experts de la CENI. Donc, nous disons ceci, la CENI, de par sa souveraineté, a monté une commission. La commission a sorti une décision. La décision, une fois que la CENI l'a sortie, elle devient comme un bien public à l'exposition de tout le monde. Mais ceux qui sont directement concernés, ce sont les juridictions et ce sont les personnes incriminées. On a dit que la CENI ne peut pas porter plainte. Elle peut porter plainte, tout comme elle peut laisser le procureur faire le travail. La CENI n'a pas dit qu'elle ne portera pas plainte. La CENI n'a pas encore terminé son travail. Elle n'a pas dit qu'elle ne va pas porter plainte. Tout ce que nous vous disons, nous vous confirmons, tout le personnel permanent de la CENI qui s'est fait compromis sera sanctionné. Tout personnel permanent de la CENI qui se serait compromis sera sanctionné. Pour que ce personnel-là dise si il a reçu les instructions d'une autorité de la CENI pour faire ce qu'ils ont fait. Ça, c'est important. Donc, voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau. Pour le reste, les compatriotes sont libres de dire, chacun se peut dire, il y a ceux qui ont pris la décision, il y a ceux qui ne l'ont pris pas. Ça, c'est la démocratie, on ne peut pas faire autrement. Mais la CENI montre qu'elle n'épargne personne. Il n'est pas impossible que certaines informations échappent. Il n'est pas impossible que certaines informations lui échappent. Alors, c'est pourquoi nous attendons de tout notre cœur que les juridictions se saisissent pour que nous apprenions des choses qui nous auraient échappé. Il n'est pas impossible que ça échappe à la CENI. Il n'est pas impossible de ne pas dire qu'on est omnipotent, omniscient, omniprésent. Non. Mais nous voulons bien que les juridictions se saisissent, qu'on arrive à mettre en place, qu'on arrive à mettre à nu toutes les stratégies utilisées, qu'on ne peut pas rattacher à un manque de consensus.
Mais
on ne peut pas justifier.
Ne pensez-vous pas, Joseph Senda, que cette fraude décrédibilise un peu tout le processus?
Non, pas forcément. C'est 82 personnes sur 101 000 engagées.
Oui, 82. Mais vous venez de nous dire que ça va continuer. On ne va pas se limiter
mais
à 82.
D'accord. Non. Il faut que ça arrive à combien? À 1000? Ça ne va pas arriver à 1000.
Mais 82, c'est déjà beaucoup, même si c'est
insignifiant. Oui, c'est beaucoup.
Par rapport au nombre de candidats.
101 000 candidats. 101 000. Ça ne fait même pas un millième. 101 000 candidats, il y a 82 qui se compromettent. On estime que sur base de ces 82, on peut faire ceci ou cela. Non, un minimum de bonne foi quand même, dans ce que nous disons.
Alors, il y a François Tadé Nazimoué qui dit ceci, qui pense que la CENI devrait annuler non seulement les voix des députés, mais aussi les mêmes voix pour les candidats présidents. Est-ce que vous avez pris en compte les résultats des machines qui ont disparu ou dérobées?
La CENI a agi en fonction des informations dont elle détient. Ceux qui se sont livrés à ces jeux-là, bien sûr, on peut dire tout ce qu'on peut dire, mais vous conviendrez avec moi que le souci principal, c'était leurs élections.
c'était eux-mêmes.
Mais la question est de savoir, est-ce que vous avez pris en compte les résultats qui sont venus de ces machines volées ou dérobées?
Bon, dans tous les cas, nous avons été informés des machines qui se sont retrouvées à certains endroits. Maintenant, il faut savoir si ces gens-là, là où ils étaient, ils avaient eu la possibilité de s'arranger pour que les clés remontent. C'est ce qu'ils ne savaient pas. Ils sont partis avec une machine. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ont pensé à ce que cette clé remonterait ou pas? Si elle est remontée, nous allons savoir quelle clé est remontée et elle est remontée par qui. Mais même si ces clés remontent, jusque-là, on n'arrive pas à établir les liens. C'est lui qui a voté pour lui-même député national. Qu'est-ce qui vous dit qu'il a député, qu'il a voté pour un conseil communal de je ne sais quoi? On ne peut pas dire ça. Donc, nous résumons en disant que nous sommes choqués de ce qui s'est passé, du comportement de la classe politique congolaise, mais au même moment, nous disons que 82 cas sur 101 000, c'est choquant, mais c'est pas aussi considérable que ça entre nous. Et nous terminons en disant que, à moins que je sois vraiment animé de mauvaise foi, je ne vois pas les liens qu'il y aurait entre quelqu'un qui se livre à un jeu et une élection d'un candidat président de la République, comme pour dire que tout le monde... Non, on ne connaît pas l'effet de vote.
Merci, Joseph Senda, professeur Bob Kabamba. On va se rendre à Kisangani pour écouter cet autre auditeur qui appelle.
Moi, c'est Henri Kassongo Moulenda depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. À mon avis, la CENI est allée vite en besogne. La CENI étant une institution d'appui à la démocratie, avait la mission d'organiser les élections et publier les résultats. N'étant pas un organe judiciaire, la CENI devrait tout simplement se limiter à publier les résultats et les dénonciations des uns et des autres devraient être prises en compte par les instances judiciaires, au cas échéant annuler les élections. Moi, je pense que la CENI n'a pas cette compétence car elle risquerait d'être jugée partie. Comment ces individus se sont retrouvés avec les dispositifs électroniques des votes et les cartes de l'ouverture de ces dispositifs? Donc, la CENI et ses candidats fraudeurs doivent comparaître devant les instances judiciaires pour éclairer la lanterne de l'opinion publique.
Dans sa première partie, cet auditeur vous rejoint un peu, professeur Bob Kabamba.
Merci beaucoup, madame, et je remercie beaucoup l'auditeur. Et puis après, je vais même reprendre l'exemple de Senda avec l'histoire des joueurs et de l'équipe. Effectivement, lorsqu'un joueur est épinglé et qu'il est sanctionné, c'est l'équipe qui est sanctionnée. Et donc, comme c'est l'équipe qui est sanctionnée, ça veut dire que c'est la CENI qui sera sanctionnée dans le cadre de l'exemple. Et aussi, deuxième problème, en disant, ben oui, qu'il n'était pas au courant, je vous assure que la CINCO et l'SSC avaient fait déjà un rapport préliminaire où ils avaient déjà épinglé ce problème, où il y avait déjà des bulletins et aussi des machines qui n'étaient pas disponibles dans les bureaux de vote et dont on avait l'impression, même pas l'impression, la précision, que ces machines n'étaient pas sur les lieux prévus par la cartographie. Et donc, je valide bien l'argument de l'auditeur, et en plus, en n'oubliant pas, comme on dit dans les principes de droit, la corruption corrompt tout. Donc, ça veut dire, grosso modo, une fois que c'est la corruption, il n'y a pas corruption 2, il n'y a pas corruption 3, quand il y a corruption, il y a corruption. Et donc, quand il y a entachement, irrégularité, documenté, juridiquement, publication des listes électorales, bureau de vote, jour de vote, dépouillement, publication des résultats, etc., etc., etc. Tout ça, ce sont des violations claires sur les dispositions de la loi électorale. Et en analysant, et la conclusion, comme vient de le dire l'auditeur, la conclusion à la Cour constitutionnelle, mais on sait très bien que cette Cour constitutionnelle, nous savons dans quelles conditions elle a été nommée et dans quelles conditions les membres ont été nommés. Et donc, je doute fort que la Cour constitutionnelle puisse apporter des réponses satisfaisantes à tout ce brouhaha, à cette cacophonie et à tout ce truc-là. Quand on lit même la presse internationale qui ont été là au Congo pour suivre le processus électoral, quand vous lisez la revue de presse, on vous dit quoi? Chaotique, on vous dit Capharnaüm, on vous donne des chiffres qui ont été vus, même tout ce qui était comme observation ont été dans le même sens. Donc soyons sérieux, récrédibilisons le processus électoral, récrédibilisons la démocratie en RDC, il faut assumer les fautes, oui, il faut aller en justice comme dit l'auditeur, pas seulement les quelques agents, mais la CENI aussi est co-responsable de tout ce capharnaüm et de ce chaos de ce processus électoral.
Théogène Ngoudié, depuis Goma au Nord Kivu, nous félicitons tous les efforts et le sang-froid de la CENI. Aujourd'hui, il n'y a plus d'intouchables au Congo, mais la question reste de savoir, vont-ils se limiter à ce niveau seulement, car même ici à Goma, il y a eu des fraudeurs. David Wedi, depuis Kinshasa, l'annulation des 82 candidats députés par la CENI est salutaire. Cela montre qu'elle est indépendante et ne reçoit aucun ordre venant de qui que ce soit. Comme les autres les pensent, direction à présent Bukavu Sud Kivu pour écouter ce dernier auditeur.
Je suis Axanti Shingamou Olivier depuis Bukavu dans la province du Sud Kivu. On s'interroge, l'élection était seulement législative, était-elle couplée ou carrément la présidentielle n'est pas concernée par la fraude? Comme la CENI a invalidé les candidats trichés aux législatives, sachant que les tricheurs ne pouvaient pas tricher aux députations, sans pour autant tricher à la présidentielle. Elle doit aussi annuler les résultats issus de la présidentielle, parce que ces derniers sont issus de la fraude, en même temps que ceux de la législation. Et la fraude corrompt tout. La simple étude de la liste de ces 82 vendus aux enchères démontre que la fraude s'est parsemée sur toute l'étendue du territoire national. Ceci implique en réalité qu'elle a des dimensions beaucoup plus graves, surtout lorsqu'on constate que les bénéficiaires des machines à voter sont tous les pieds en cap de la famille politique du pouvoir en place et ont des profils administratifs. Nous, la grande partie sont des ministres, des sénateurs, des gouverneurs, voire même des députés en exercice. Par quelle magie, dans une élection combinée avec un seul bulletin, la CENI peut nous expliquer que seuls les législatives ont été corrompues, et pas la présidentielle, c'est de la poudre aux yeux.
Alors Frédéric Amani, commentaire.
Merci beaucoup. Je salue l'auditeur de Bukavu pour sa question. Je crois tout ce qu'on peut dire, c'est que il y a eu des irrégularités, ces cas de fraude, et il faut que la CENI aille jusqu'au bout. Il faut pas se limiter seulement à ces cas, parce que le nombre de machines à voter qu'on aurait trouvé dans le main des particuliers, c'est énorme. Je crois que la fraude corrompt tout, comme tout le monde est revenu là-dessus. Et il n'y a pas de honte ou il n'y a pas de péché en disant que par rapport à ces nombres d'irrégularités, pour mieux faire, on peut annuler ces élections pour les organiser afin que, n'est-ce pas, pour éviter toute suspicion ou tout malentendu. Ça, c'est de un. Dédé, nous pensons que ce qui est important pour la RDC, c'est sa stabilité, c'est, n'est-ce pas, son émergence. Je crains que les éléments de frustration, parce que les candidats qui sont invalidés, ils ont des militants, et je crains que ça donne, n'est-ce pas, à saboter le processus. Et un autre élément, Madame Kelly, c'est que la CENI, de mon point de vue, est pris dans son propre piège. Pourquoi? Parce que elle aurait dû commencer ses enquêtes avant la publication des élections, et quitte à ce que, après avoir déniché ces cas de fraude, elle pouvait alors publier, et au niveau de la présidentielle, au niveau de la députation nationale et provinciale. Mais donc, voilà pourquoi tout le monde, au moins, pas la majorité, mais au moins la majorité des auditeurs ou des intervenants, voudraient que les scrutins soient annulés, parce qu'on pense que c'est peut-être pour donner des crédibilités au processus qui, au départ, était déjà entanché de beaucoup d'irrégularités. Et je vais emprunter aussi l'expression du prof Bob, où les mots qui reviennent, chaotiques, simulacres et consorts. Mais ce qui est important, nous pensons que ce cycle électoral devrait corriger les erreurs du passé et baliser le terrain pour un autre cycle électoral plus transparent, démocratique, pour le progrès et le bien de la RDC et de son peuple.
John Steven Ngoi, depuis Lualaba, je pense que cette décision de la CENI n'est pas salutaire au stade actuel, mais cela n'est qu'un doigt dans l'œil de la CENI qui fait cela suite aux revendications de l'opposition, alors que dans l'ensemble, le processus est émaillé des irrégularités. Donc, le président de la CENI, connaissant dès le départ les imperfections du processus, cherche à faire le pilote. Morrison Chris, là-bas aussi, s'il vous plaît, madame, posez la question à monsieur Senda. Il fallait dépenser, il fallait faire dépenser à la République toute somme, toute cette somme d'argent pour avoir cette forme d'élection. Or, la souffrance est indescriptible au sein de la population. Voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions. On ne peut pas toutes les lire. Monsieur Senda, nous sommes à la fin de l'émission, mais il y a une question qui nous vient de Kinshasa. Madame Sabine, qui veut savoir à quand la publication des résultats provisoires de la députation nationale et provinciale. Est-ce que ça va intervenir après les enquêtes que vous menez ou ça interviendra avant?
Je ne peux rien dire. Je sors d'une plénière pour répondre à votre invitation. On est en train de traiter cette question-là. J'étais là, mais j'étais obligé de venir. Donc, je ne sais pas très bien quelle orientation on va donner aux amis qui sont au-dessus. Alors, comme dernier mot, moi, je voudrais que beaucoup de Congolais cessent d'être naïfs en nous renvoyant à la fameuse communauté internationale. Nous savons ce qu'elle sait. Donc, nous renvoyer à ça, je crois que ça ne sert absolument à rien du tout. De deux, on a saisi la Cour constitutionnelle. Il ne faut pas qu'on applaudisse la Cour quand elle dit quelque chose qui nous plaît. La Cour a reçu tout le monde. Les 26 candidats ont été reçus. On a applaudi la Cour. Maintenant que la Cour est en train de recevoir les contentieux, non, on veut décrier la Cour. C'est pas correct, c'est pas normal non plus. Donc, nous nous attendons à ce que la Cour va dire. Ce n'est plus à notre niveau. La CENI va continuer à faire le travail qu'elle doit faire, notamment ce qui concerne son personnel. Si elle a d'autres informations par rapport aux autres, elle verra ce qu'elle pourra faire. Mais laissons les juridictions faire leur travail. Elles ne travaillent pas à la tête des gens. On ne peut pas les accuser quand ça ne nous plaît pas. On ne peut pas les encenser quand ça nous plaît. Ce n'est pas comme ça qu'on peut voir les choses. Donc, moi, je voudrais que par rapport à ça, on laisse les choses évoluer comme elles devront l'être. Maintenant, prétendre qu'il faut, mais dans une circonscription, quelqu'un fait des histoires folles. Mais vous voulez qu'on punisse les autres candidats de la circonscription? Les innocents? Vous voulez qu'on les punisse en annulant tout? On a identifié les auteurs, on les a sanctionnés, les innocents sont épargnés. Que de prétendre que non, voilà, il fallait tout aligner. Et les innocents qui ont fait aussi des sacrifices pour qu'on arrive à ça. Donc il faut identifier les responsables. Et d'ailleurs, si on avait fait ça, les innocents allaient crier. Vous avez annulé pourquoi? Moi, je n'ai pas fait ceci, cela. Autant identifier les auteurs et les sanctionner. Et à ce stade, c'est 82 sur 101. 101 000, je voulais dire. 101 000. Je ne sais pas Enfin, je suis démographe de formation. Je sais la taille minimale d'un échantillon pour qu'on extrapole. La taille minimale pour qu'on puisse extrapoler à l'univers, ce que nous appelons l'univers, c'est-à-dire toute la population. 82 cas sur 101 000. Mais voyons quand même. Donc.
Merci.
Allô?
Oui.
Donc, voilà un peu ce que je peux dire à ce stade. Pour ce qui est du calendrier, comme je l'ai dit, je suis sorti de la plénière. Peut-être que si une décision a été prise, elle sera portée à la connaissance du public d'ici là.
Merci, Monsieur Senda. On va lire une dernière réaction qui nous vient de Kinshasa, auditeur anonyme. Détention illégale des machines à voter qui ont pourtant été connectées au serveur central et ont produit le vote électronique à la présidentielle. Vote accrédité par la même CENI, c'est déplorable. Alors, professeur Bob Kabamba, votre conclusion?
Ma conclusion, c'est qu'il n'y a pas de honte, pour dire mon collègue Frédéric tout à l'heure, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de honte, ce ne serait que crédibiliser le processus électoral, la démocratie en RDC, que de pouvoir annuler purement et simplement et recommencer un processus, bien sûr en sanctionnant tous les protagonistes, en commençant par l'équipe qui a organisé, parce que tout simplement c'est l'équipe qui a échoué, et aussi tous ceux qui ont participé de loin ou de près à cette mascarade qui pourrait être sanctionnée aussi bien pénalement par les juridictions compétente et pas par une organisation, la CENI, qui n'a pas compétence pour pouvoir sanctionner des candidats alors qu'il y a des juridictions et des compétences qui sont reconnues. Respectons la loi, c'est une façon aussi de pouvoir crédibiliser la démocratie en RDC.
Merci, professeur Bob Kabamba. Frédéric Amani.
En conclusion, Madame Kelly, ce qui est important, c'est la République et non les hommes. Je crois que la comparaison n'est pas raison. Au Kenya, il y a eu annulation des scrutins parce que il y a eu des cas de fraude. Je pense que pour l'intérêt général de cette République et pour, n'est-ce pas, la cohésion, on peut aussi arriver à ces cas. Et Enfin, nous pensons et nous souhaitons que la CENI aille jusqu'au bout de ses processus, c'est-à-dire dénicher tous les fraudeurs, pas une partie, mais tous les fraudeurs, y compris même les agents de la CENI. Et enfin, nous souhaitons que la cohésion, la paix soient de mise et qu'on ne s'adonne pas à des violences, parce que ce que nous avons d'important, c'est la République et non les hommes, parce que les hommes passent, mais la République reste. Et nous souhaitons la paix et la stabilité pour ce pays, bien que le processus entaché d'irrégularité peut aussi concerner la légitimité d'institutions.
Merci Frédéric Amani, Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à la grande équipe qui m'a accompagné, Dona Madimba, Jean-Claude Siala, Herbie Vokia, Jonathan Fonani et Clément Chimanga. Présentation et coordination, Kéline Kouté, monte suite de programme sur la fréquence de la paix.